Nous recevons ce soir dans notre aumônerie Monsieur Salamito, de prénom Jean-Marie. Il la connaît très bien car il la fréquenta, lui qui fut normalien et membre des Thalas. Enseignante en Sorbonne, agrégée latiniste, d'antiquité chrétienne éminent spécialiste, c'est dans quelques instants qu'il va nous présenter la pensée d'Augustin, l'idée de liberté.
J'avoue que je l'exprimerai en prose, mais on fera mieux la prochaine fois. Merci beaucoup. Je sais que vous étudiez la liberté cette année. Je vais essayer de vous dire quelques mots de la liberté selon saint Augustin. Ce sera une esquisse, simplement. Ça vous invitera peut-être à aller plus loin, à continuer. Et comme j'ai l'habitude de faire, je m'appuie sur des textes. Je crois que c'est la seule manière de faire, de vous donner des textes qui vous permettent une première approche. Quelque chose qui soit, disons, un premier contact à peu près direct. D'autant que j'utiliserai des textes qui ne sont pas toujours si fréquemment utilisés, dont un qui est bien connu, mais qui me paraît fort difficile. Alors je procéderai, sans vous présenter Augustin, peut-être, vous voulez que je vous présente Augustin rapidement? Je ne sais pas ce que vous avez prévu. Non, ça va, on y va, on va directement sur le thème de la liberté. Alors c'est très simple. Vous avez 11 textes, et je vais essayer d'aborder 5 thèmes différents. D'abord, la liberté dans le domaine politique. Ce seront les textes 1 à 4. Deuxième partie, la liberté dans le domaine social et le problème grave, aigu, de l'esclavage. Ce sera le texte 5. Troisième moment, la liberté dans le domaine religieux avec le problème de ce schisme qu'on appelle le donatisme, que j'expliquerai, et le problème de la répression officielle de ce schisme. Mon quatrième thème, j'appellerai volontiers la force de la liberté intérieure. Et j'utiliserai les textes 7 à 9. Enfin, dans un cinquième moment, je voudrais parler de ce que j'appellerai volontiers, à propos d'Augustin, mais au fond, à propos du christianisme en général, la libération chrétienne. Il ne s'agit pas de théologie de la libération, je ne fais pas exprès, mais je voudrais parler du christianisme comme libération, de la façon dont Augustin le conçoit. Alors je lance dans les textes tout simplement, quand vous avez cédé, c'est pour « De Civitate Dei », la cité de Dieu. Ça me permettait de gagner de la place. Et ce sigle CD est très très utilisé dans le monde anglophone. Il y a d'autres abréviations, mais celle-ci est la plus brève. Au livre 3, chapitre 10, j'ai pris ma... Ah oui, toutes les traductions sont les miennes. Elles sont faites sur le texte latin. Ce ne sont pas les traductions de version latine, j'essaie de prendre des libertés vis-à-vis de la syntaxe du texte pour être plus proche de la syntaxe française, c'est-à-dire que j'ai souvent coupé les phrases longues pour avoir quelque chose de plus fluide. Entendons-nous bien, je suis agrégé d'être classique, j'ai toujours fait carrière en histoire, comme un certain nombre d'agrégés d'être classique qui ont décidé de faire la recherche en histoire. Je suis dans une UFR d'histoire, j'ai toujours été en UFR d'histoire. À l'époque, il y a bien longtemps, j'ai refusé un poste de caïman à l'école parce que c'était un poste de caïman de latin qu'on me proposait, et j'aurais pris un poste d'histoire de l'Antiquité, ça, oui, à ce moment-là. Les versions latines, j'ai déjà donné, j'ai l'âge de faire les traductions d'une manière plus libre. Et je ne suis plus en train de passer l'agrégation. Mon agrégation remonte à 1982. Merci, c'est loin, c'est fini. Augustin envisage les guerres des Romains. Comment les Romains peuvent-ils justifier leur guerre? Mais admettons comme juste cette défense des Romains un argument qui est dans les sources. Si ils ont entrepris et mené de si grandes guerres, c'est qu'ils résistaient aux agressions des ennemis, non par désir de s'attirer des louanges humaines, mais selon la nécessité de préserver leur survie et leur liberté. Admettons. Vous voyez qu'Augustin fait une concession. On est dans le admettons. Et ce qu'il reprend, ce sont les arguments romains. C'est-à-dire, nous avons fait des guerres défensives. C'est assez amusant comme guerre défensive parce que ça consiste à se créer une zone de protection qui finit par être tout le bassin de la Méditerranée. Hein, vous voyez, comme l'idée de la zone de protection, de la zone tampon, c'est assez poussé. Mais Augustin est prêt à admettre cet argument. Ce qui veut dire une chose très importante, c'est qu'il n'est pas indifférent à l'idée de liberté d'un peuple ou d'une nation, à la défense de cette liberté collective. Et cela doit nous rappeler quelque chose. C'est important parce qu'il y a des clichés très nombreux qui courent sur Augustin. Augustin n'est pas ce personnage ultra-pessimiste que l'on nous présente souvent, dans une espèce de lumière janséniste, ce qui est très très français. Augustin est capable de bien prendre en compte ce qui est simplement humain, la liberté d'un peuple. La liberté d'un peuple n'est pas quelque chose de négligeable. Et puis, il y a toute une réflexion d'Augustin, vous allez voir dans les textes suivants qui vont dans le même sens, qui se complètent plutôt bien. Il y a une réflexion sur la République romaine, qui est une réflexion à la lumière de l'idée de liberté et de liberté dans son sens politique, tout simplement. Je fais exprès de commencer par l'aspect politique, parce que, premièrement, on ne s'attend pas, lorsqu'on parle de liberté à propos d'Augustin, à parler de liberté politique. Ensuite, parce que des gens très éminents, je pense à un historien britannique des idées politiques, extrêmement connu dans le monde entier, qui était même venu à l'IPC il y a quelques années, Quentin Skinner, qui dit dans un de ses livres, Augustin ne s'intéresse pas à la politique. Alors ça, c'est typique du jugement de quelqu'un qui n'a pas lu Augustin, qui est un éminent spécialiste de Machiavel et de la pensée politique à la Renaissance, mais qui n'a pas lu Augustin, et qui précisément, dans son livre, cite en note à ce moment-là l'article le plus mauvais que j'ai jamais lu sur la pensée politique d'Augustin. L'éminent prof de Cambridge, mais qui se met le doigt dans l'œil juste à le mot. C'est une question tout à fait extraordinaire de trouver cet article nul, et hop, c'est celui que cite Skinner. Bon, c'est amusant. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'Augustin s'intéresse beaucoup au devenir de la République romaine et de la liberté des Romains. C'est notre texte 2 qui est dans le livre 1 de la Cité de Dieu, chapitre 30 et 31. Et je crois que le mieux, c'est de le lire, tout simplement. Carthage fut anéantie. Là, on a une étape. Une étape, la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Alors, je ne veux pas faire de l'histoire romaine nécessairement, même si j'ai été très longtemps professeur d'histoire romaine, avant d'être professeur d'histoire du christianisme antique, mais c'est très important comme repère pour les historiens d'Antiquité qui traitent de l'histoire de Rome, le moment où la République romaine commence à se dégrader, c'est 146 avant Jésus-Christ, la destruction de Carthage. Vous allez voir pourquoi. Augustin lui-même reprend les arguments de ses auteurs païens, parce qu'il a de la culture, et qu'il reprend, il fait comme tous les pères de l'Église, il reprend son bien là où il le trouve. C'est-à-dire chez les auteurs qu'il a lus, et avec lesquels il peut être en accord, même si ce sont des païens, il peut être en accord sur un certain nombre de points. La grande peur de la République romaine fut écartée et éliminée. Les Romains n'ont plus peur. Du coup, ils se relâchent. Alors, suscités par ces circonstances trop favorables, de grandes malheurs se succédèrent sans interruption. Et vous avez toute une histoire qui est une histoire d'aggravation progressive. Il ne faut pas croire que le texte soit purement rhétorique. là encore, on se trompe très souvent sur la rhétorique d'Augustin. La quantité de gens qui considèrent lui le fait de la rhétorique, alors du coup, on ne lit pas. Hein, faites toujours très attention à ça. Il y a énormément de gens qui ne savent pas lire. Et les très très grands auteurs du genre Augustin et d'autres sont souvent l'objet de quantité de clichés. Je dis quelquefois aux étudiants en licence, plus encore qu'à ceux de master, qu'est-ce que c'est qu'un grand auteur ? C'est celui dont tout le monde parle, mais que personne n'a lu. Vous verrez, c'est assez fréquent. Avec beaucoup de géants, c'est fréquent. Tout le monde croit les connaître parce qu'ils sont dans l'air, on en a entendu parler. Alors regardez ce qui se passe. D'abord, la concorde fut malmenée, puis brisée. Malmenée, c'est une étape. Brisée, c'est une étape d'aggravation. Par de cruelles, de semblantes séditions. Ce ne sont que des séditions, c'est-à-dire des événements ponctuels. Peu après, par un enchaînement de causes funestes, des guerres civiles entraînèrent de grands carnages. Vous voyez, on passe de la sédition, qui est quelque chose de ponctuel, à la guerre civile, qui est un fléau généralisé pour l'ensemble de la société. Des guerres civiles entraînèrent de grands carnages. Le sang fut versé en abondance, la férocité des proscriptions, si vous connaissez votre histoire romaine, vous savez ce que sont les proscriptions de Sylla à la fin des années 80, au début des années 70 avant l'ère chrétienne, et des rapines, bien sûr on s'empare des liens des proscrits, flamba avec une ardente passion. Vous avez cette dégradation de la République romaine, dégradation suprême, parce que c'est ce que beaucoup de politologues, ce que beaucoup d'historiens considèrent comme le pire malheur qui puisse arriver à la société, la guerre civile. Parce que la guerre civile, c'est la guerre entre concitoyens. C'est-à-dire la guerre sans limite, la guerre sans ligne de front, la guerre sans règles, si tant est que la guerre en est, en principe elle en a, mais la guerre civile, c'est le pire qui puisse arriver. Et j'ai mis en gras l'expression « par un ». Un enchaînement de causes funestes. C'est très important ici de voir que pour Augustin, il n'y a pas seulement des malheurs qui se suivent, il y a une chaîne causale. Et il utilise en latin le terme concaténatio, que vous retrouvez avec le français concaténation. Il y a bien l'idée que tout se tient. Et si tout se tient, on peut analyser. Donc, vous voyez que le point de vue d'Augustin n'est pas seulement un point de vue moral, c'est un point de vue analytique. Au passage, ça nous amène, nous, à l'analyse. Je veux dire, en tant que chrétiennes et chrétiens, nous avons un devoir d'analyse. Et pas simplement de nous exclamer ou de ressentir les choses, mais le devoir de les comprendre. Ainsi, ces fameux Romains, qui, tant qu'ils menaient une vie intègre, ne redoutaient de mal que de leurs ennemis, subirent, après avoir abandonné l'intégrité de leur vie, encore plus de cruauté de la part de leurs concitoyens. Cette passion de dominer, c'est bien de dominer, c'est pas l'ambition du pouvoir, c'est la passion de dominer, c'est beaucoup plus grave. On peut avoir l'ambition d'arriver au pouvoir, mais la passion de dominer, c'est pas simplement exercer le pouvoir, c'est écraser les autres. Quand Augustin dit dominer, c'est vraiment très négatif. Cette passion de dominer, qui parmi les autres vices du genre humain était chez tout le peuple romain particulièrement intense, petite note sur le caractère romain vu par Augustin, s'empara d'abord d'un petit nombre de puissants, puis elle alla jusqu'à imposer à tous les autres, écraser, exténuer le joug de la servitude. Donc le contraire de la liberté. Et vous voyez que ça part des puissants, il y a une vision sociale, ou sociologique quasiment, si vous voulez, ça part des puissants et tout le monde est victime. Et l'aboutissement, c'est la servitude. Alors, quel est le régime de servitude pour Augustin ? Quel est le résultat politique auquel on arrive qui peut caractériser comme étant servitude ? Donc, exactement le contraire de la liberté. Eh bien, c'est le paragraphe suivant qui en donne la clé. Dans des esprits remplis d'orgueil, la passion de dominer, vous la retrouvez, ne devait s'apaiser qu'une fois qu'elle serait parvenue, après avoir accumulé les magistratures, jusqu'à la puissance royale. Donc, la dénonciation ici qui est faite, c'est que les grands hommes de la fin de la République romaine, que connaissent évidemment bien les historiens, les Pompée, les César, Crassus avait moins de chance, ces gens-là en fait, voulait la puissance royale. Et vous voyez que, ça commence ici, l'image du pouvoir royal n'est pas une image positive. Ce qu'on oublie complètement quand on parle d'Augustin, je vais avoir l'occasion d'y revenir. L'accumulation des magistratures, ce qui est exactement le phénomène, hein, un historien actuel ne dirait pas mieux, n'aurait pas été possible si l'ambition n'avait pas pris le dessus. L'ambition ne pouvait prendre le dessus qu'au sein d'un peuple corrompu par la convoitise et les excès. La convoitise et le goût pour les excès vinrent au peuple de circonstances trop favorables. Ce sont ces dernières que Nasica, c'est Scipion Nasica, plus exactement Scipion Nasica Corculum, que Nasica, dans sa grande prévoyance, cherchait à éviter. Ce que vous avez ici, c'est une remontée des effets vers les causes. Vous voyez, vous avez une démarche régressive, il y a une logique dans cette phrase. On n'est pas dans la rhétorique. Oubliez la rhétorique et pensez à la logique. Hein, c'est beaucoup trop facile de dire la rhétorique. C'est ce qui nous invite à la superficialité. Vous avez quantité de zozos qui font des éditions, qui mettent des notes, qui font des cours de fac, et qui expliquent « Ah oui, là, Augustin donnait l'argument purement rhétorique. » Va te faire voir, collègue. Non, mais voyez, faites attention à cela. Il y a une manière d'aplatir tous les auteurs. Hein, quand j'étais en CAI, on appelait ça, pour nous, certains de nos profs, être un fer à repasser, quelqu'un qui passe le fer à repasser sur le texte. Le texte n'est pas rhétorique. Vous avez, regardez, vous avez en fait une suite d'effets et on remonte vers les causes. Hein. La convoitise et le goût pour les excès vinrent au peuple de circonstances trop favorables, ça c'est la fin. Mais, parce qu'on a monté, l'accumulation des magistratures n'aurait pas été possible si l'ambition n'avait pas pris le dessus, ça c'est l'ambition d'une minorité. L'ambition de cette minorité ne pouvait prendre le dessus qu'au sein d'un peuple corrompu par la convoitise et les excès. Il faut que le peuple soit corrompu pour qu'il accepte d'élire des gens qui sont de plus en plus ambitieux. La convoitise et le goût pour les excès vinrent au peuple de circonstances trop favorables. Il y a, une sociologie politique, il y a la dégradation des élites, la dégradation du peuple. Et les deux vont ensemble. Hein, pour faire très attention, parce que quelquefois nous plaignons de politique, en fait c'est toute la société qui pose un problème. Nous avons les hommes politiques, ou les femmes politiques, que la société est capable de produire. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que certains ont été populaires à un moment, parce qu'ils étaient exactement l'image des passions du moment. Et à d'autres moments, ça ne marche pas. Mais ça dépend de la société. Et puis Augustin reprend la chose. Il ne voulait pas éliminer une cité à l'ennemi très vaste, très forte et très riche. Et là, on a la chaîne causale, mais en partant des causes et en allant vers les effets. Donc on a exactement l'inverse. On a deux présentations logiques. De la sorte, la peur aurait endigué la passion. Première étape positive. Deuxième étape, endiguer la passion n'aurait pas entraîné une profusion d'excès. Troisième étape, sans ces excès, la convoitise non plus n'aurait pas gagné du terrain. Et conclusion, si ces vices avaient été réfrénés, la vertu profitable à la cité aurait grandi et fleuri, et la liberté qui va bien avec cette vertu se serait perpétuée. Donc, ici, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une défense de la liberté romaine à partir d'une critique de la République romaine, mais ce n'est pas la République en tant que régime qui est critiquée, c'est sa dégradation qui conduit à la puissance royale, c'est-à-dire à l'Empire. Ce qui mérite une simple, Augustin vise l'Empire, même sous une phase très autoritaire de l'Empire romain, or il pense à la République romaine. C'est très curieux, il n'adhère pas, n'est pas obligé par le régime de son temps. Et surtout, regardez ce que j'ai même souligné, je ne suis pas contenté de le mettre en grave, je l'ai souligné, la liberté qui va bien avec sa vertu. Avec quelle vertu? La vertu profitable à la cité, c'est-à-dire la vertu civique. Attention, Augustin ne la présente pas comme une vertu chrétienne. Il la présente comme une vertu typiquement politique, qui est le fait de savoir penser à la collectivité. Et ça, les païens en sont capables jusqu'à un certain point. La meilleure manière d'arriver à cette vertu, c'est le christianisme. Mais ce n'est pas une vertu chrétienne. C'est une vertu politique indispensable à la cité, ce que nous appellerions le civisme. Vous remarquez au passage que Augustin est exactement dans une ligne que nous retrouvons, enfin, qui est typiquement romaine, qui est l'idée qu'on ne sépare pas la politique de l'éthique, on ne sépare pas la politique de la morale, et c'est ce que vous retrouvez chez Montesquieu, avec l'idée que ce qu'il faut à la démocratie, c'est la vertu. Vous voyez très bien l'état dans lequel sont les démocraties occidentales, et vous voyez très bien l'état dans lequel sont les masses. Hein, l'analyse que ferait Augustin, ce n'est pas très différent, peut-être. En tout cas, ça nous réserverait peut-être aussi des surprises. Alors, vous avez à peu près la même idée dans le texte 3, mais lors de la dernière guerre punique, un autre Scipion, alors cette fois c'est Scipion le second Africain, hein, en une unique campagne qui lui valut lui aussi le surnom d'Africain, hein, comme le premier Africain, le vainqueur d'Hannibal, rasa jusqu'au sol la rivale de la puissance romaine. Par la suite, la République souffrit de l'accumulation de maux considérables. La prospérité et la tranquillité favorisèrent la corruption des mœurs, qui entraîna une cascade de malheurs retrouvés. Ces causes qui entraînent des effets qui, à leur tour, sont des causes, dégradation progressive. Carthage s'avérait plus nuisible par la rapidité de sa chute qu'elle ne l'avait été par la durée de son hostilité. Cette période s'acheva avec César Auguste. Celui-ci, c'est clair, arracha aux Romains une liberté qui, contrairement à leur opinion, n'était plus glorieuse, mais criblée de querelles, périlleuse, désormais à bout de souffle et gravement affaiblie. Il ramena tout à ses prérogatives dignes d'un roi. Alors, vous voyez vraiment l'accusation. Il dit, Auguste, c'est un roi. Alors que toute l'ambiguïté du régime augustéen, c'est de faire croire à une restauration de la République. Hein? Il y a un mensonge augustéen qui touche tout le règne. Justement, nous ne sommes pas tous, nous avons le règne d'Auguste, qu'Augustin dénonce ici comme certaines sources romaines. En feignant de restaurer, c'est une fin, et de renouveler une république qui prétendument ne chancelait que sous le fardeau de son grand âge. C'est quelque chose de très intéressant, l'idée du grand âge. Vous avez le refus par Augustin d'une idée qui est très courante en philosophie politique romaine, c'est l'idée que les nations, les régimes vieillissent, comme naturellement, comme s'il y avait une loi biologique des collectivités. Et Augustin refuse cette loi, c'est pas le grand âge de la république, c'est la dégradation morale. Et la dégradation morale s'explique notamment parce que les Romains ont une mauvaise religion. Ils ont des dieux qui en réalité sont des démons, on va voir un petit peu plus loin. Enfin, un autre texte sur cette question politique, avec la comparaison entre César et Auguste, vous allez voir. Vainqueur de Pompée, Jules César usa avec clémence de sa victoire sur ses concitoyens, caractéristique très forte de César, et qu'Augustin apprécie ailleurs sa clémence. Hein, César est assassiné par des ennemis qu'il avait laissés en vie, hein, et qu'il n'avait pas cherché à punir. Sous prétexte qu'il aspirait à la royauté, c'est un prétexte, Augustin n'accuse pas César d'avoir voulu être roi, une conjuration d'illustres sénateurs l'assassine en pleine curie pour préserver, selon eux, la liberté de la République, c'est bien l'idée. Augustin adopte bien ce point de vue sénatorial. Juste après, Antoine semblait vouloir hériter de la puissance de César, mais il lui était très inférieur en matière de mœurs, car soudé et corrompu par toutes sortes de vices. Cicéron lui résistait avec fougue pour préserver, pensait-il, cette même liberté de la patrie. C'est tout à fait la pensée de Cicéron. Alors apparut un jeune homme étonnamment doué, l'autre César, le fils adoptif de Jules César, celui qui, comme je l'ai dit, fut par la suite appelé Auguste. Cicéron s'intéressait à ce jeune César dans l'idée de favoriser contre Antoine son ascension. Il espérait qu'il battrait en brèche et anéantirait la domination d'Antoine, puis restaurerait la liberté de la République. Comme Cicéron fut aveugle et imprévoyant, les historiens aujourd'hui ne disent absolument pas autre chose. Ce même jeune homme dont il soutenait la dignité et la puissance permit à Antoine, par une sorte de pacte d'entente, de le faire assassiner. Enfin, après avoir beaucoup clamé son attachement à la liberté de la République, le jeune César, c'est lui, l'a soumis au joug de sa propre domination. C'est un phénomène très très intéressant de liberté d'esprit d'Augustin, alors qu'à peu près toute la tradition impériale romaine vante Auguste, c'est quand même le fondateur du régime, c'est le très grand homme. Augustin n'a pas d'admiration pour lui. C'est quelque chose de tout à fait frappant, j'avais même un peu de mal à le croire quand je m'en suis aperçu. Et on ne le dit pas très très souvent. Ça, c'est sur le côté politique. J'ajoute juste une chose, ce sera un petit peu provocateur. Je pense qu'Augustin avait une sensibilité républicaine. Et je serais prêt à y revenir dans dans le débat, l'idée au fond d'une liberté collective, mais qui va avec la vertu. Et la vertu peut être soutenue par le christianisme. En fait, pour Augustin, une société peut vivre si elle est unie, et elle n'est jamais aussi unie que si elle est entièrement dirigée par une influence chrétienne. En fait, là, vous avez quasiment un résumé de sa pensée politique. Alors j'en viens à ce fameux texte dans la Cité de Dieu, livre 19, sur l'esclavage. C'est un texte qui a donné lieu à des contresens très nombreux à toutes les époques. Et je pense que ce texte signifie exactement le contraire de ce que beaucoup de gens y font. Je vais essayer de vous le démontrer. Mais dans la maisonnée du juste qui vit de la foi et se trouve encore en exil, loin de cette cité céleste, même ceux qui commandent sont au service de ceux à qui ils paraissent commander. Et ils ne commandent pas avec le désir de dominer, ça c'est dans la famille, mais ça regarde aussi maîtres et esclaves, mais selon le devoir de réfléchir, pas avec l'orgueil de tenir le premier rang, mais avec la miséricorde qui consiste à prévoir. Hein ? Le pouvoir comme service, c'est ce que vous avez ici, grande idée chrétienne. Et Augustin conclut, cette fois en généralisant, voilà ce que prescrit l'ordre naturel. Voilà ce qu'a voulu Dieu en créant l'être humain. Il explique, car il dit qu'il domine les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Genèse 1, 26. L'être doué de raison fait à son image, Dieu a voulu qu'il ne domine que des êtres dépourvus de raison, que l'être humain ne domine pas l'être humain, mais la bête. L'être humain a été créé libre. C'est pourquoi les premiers justes ont été établis pasteurs de bêtes plutôt que rois d'êtres humains. Dieu nous enseigne ainsi à distinguer ce que demande l'ordre de la création et ce qu'entraîne la rétribution des péchés. Le péché entraîne l'esclavage, entraîne ce désordre qu'est l'esclavage. Alors, voici l'esclavage comme conséquence du péché. On admet à juste titre que la condition servile a été imposée à l'être humain désormais pécheur. Attention, à l'être humain en général. Parce que beaucoup de gens tirent de ce texte, on a fait ça pendant des siècles, l'idée que l'esclave, bien fait pour lui, c'est un pécheur. Augustin dit exactement le contraire, vous allez voir. Dans les Écritures, nous ne lisons nulle part le mot esclave avant que le juste Noé ne l'emploie pour châtier le péché de son fils. C'est la faute qui a mérité ce terme, pas la nature. Donc l'esclavage est contre nature. Et là, on se met en garde contre la théorie aristotélicienne de l'esclave par nature, de celui qui mérite par lui-même, de par son tempérament, d'être esclave. On n'est pas esclave par nature. La cause première de l'esclavage est donc le péché, qui entraîne qu'un humain soit soumis à un humain par le lien de sa condition sociale. Attention, le péché en général, ça ne veut pas dire que celui qui est esclave est plus pécheur que son maître. C'est même le contraire, vous allez voir. Alors faites très très attention. Cela n'arrive pas sans un jugement de Dieu en qui il n'y a pas d'injustice et qui sait distribuer les divers châtiments selon ce que méritent les fautifs. Attention, le jugement de Dieu en question, ce n'est pas un jugement définitif. C'est un jugement dans l'histoire. C'est-à-dire que, Augustin, lui d'ailleurs, ce qui peut arriver de pire au pécheur, à celui qui vit constamment dans le péché, c'est de bien réussir. Parce qu'il n'a du coup aucune occasion de se repentir. Et donc le malheur, l'échec, les difficultés sont pédagogiques, sont thérapeutiques. Et qui, justement, ne va pas bien? Regardez bien. Le maître céleste dit ainsi, qui commet le péché est esclave du péché. Qui est esclave du péché? Regardez juste après. Si donc beaucoup d'hommes tout à fait religieux sont esclaves de maîtres injustes, ceux-ci, c'est-à-dire les maîtres, ne sont cependant pas libres. Qui est esclave du péché ici? Le maître. Et regardez la suite, c'est tout à fait confirmé. On devient esclave de celui par qui on a été vaincu. C'est la deuxième épître de Pierre. Mais ce n'est pas un homme par qui on est vaincu. Or, il vaut nettement mieux être esclave d'un être humain que d'une passion mauvaise. Car, pour ne prendre que cet exemple, la passion de dominer ravage le cœur des mortels par la domination la plus cruelle. Vous avez là un paradoxe typiquement augustinien qu'on a déjà au début de la Cité de Dieu, mais à propos de l'impérialisme. celui qui croit dominer est en fait dominé par quoi? Par la passion de dominer. Et donc, le maître est d'autant plus esclave qu'il est pécheur. Et qu'il peut être le maître d'un juste, comme ça nous est dit, d'un homme religieux, d'un juste. Donc, si vous voulez, ce texte qui a si souvent servi à dire, enfin, j'ai des collègues qui me disent, comment peux-tu travailler sur Augustin, un homme qui croit que l'esclave est esclave à cause de son propre péché. Mais non, c'est exactement le contraire, c'est le maître qui est esclave du péché. Parce que ce qui intéresse Augustin, c'est la liberté intérieure. Et le maître qui martyrise son esclave est esclave lui-même de sa passion. Et donc, il est dans la pire situation intérieure. Chez les humains qui trouvent leur paix dans cet ordre selon lequel les uns sont soumis aux autres. C'est-à-dire, bon, c'est l'ordre social qu'Augustin est prêt à accepter avec un certain fatalisme typique de l'Antiquité, puisque de toute façon, vous voyez le terme important, ça donne une certaine paix. Bon, ben, c'est l'ordre social. C'est issu du péché, ça n'est pas conforme à la volonté du Créateur, mais bon, si les êtres humains ne s'entretuent pas, c'est toujours ça, la société tourne à peu près. L'humilité, cependant, comme vertu intérieure, est aussi bénéfique aux esclaves que l'orgueil est nuisible au maître. C'est-à-dire, dans l'esclavage, peut-être que les rôles sont inversés. Si l'esclave est humble, il est supérieur à son maître et lui va vers son salut, alors que le maître risque de persévérer dans le mal et c'est évidemment un risque pour ce maître. Cela étant, ni l'un ni l'autre ne devrait être esclave. L'esclave ne devrait pas être esclave d'un maître. Le maître ne devrait pas être esclave de sa passion pécheresse. Et vous avez ce que j'ai mis en gras. Mais selon la nature que Dieu a primitivement donnée à l'être humain, personne n'est esclave de l'humain, situation sociale, ni du péché, situation, si vous voulez, spirituelle. Cela dit, même l'esclavage à valeur de châtiment relève de cette loi qui prescrit de conserver l'ordre naturel et défend de le perturber. Car si rien n'avait été fait contre cette loi, rien ne serait à corriger par un esclavage à valeur de châtiment. Alors là, c'est une manière de dire, en fait, dans le désordre, il y a quand même de l'ordre. Il y a quand même de l'ordre parce que l'esclave peut profiter du malheur de sa situation pour grandir intérieurement et que le maître qui est mauvais est bien puni d'être mauvais, il est malheureux d'être mauvais. Hein? Vous voyez, c'est cette idée qui est très importante chez Augustin, l'ordre l'emporte toujours. Au prix d'une certaine part de désordre, mais on retrouve la justice quand même. Et du coup, il y a un enseignement parénétique, un enseignement moral. C'est pourquoi l'apôtre avertit les esclaves eux-mêmes d'être soumis à leur maître, et de les servir avec bonne volonté, de toute leur âme, je vous ai mis les références, de cette façon, s'ils ne peuvent pas être libérés de leur maître, ils rendront, pour ainsi dire, leur esclavage libre, en servant non par une crainte hypocrite, mais selon un attachement sincère, la sanctification possible pour l'esclave. Et, attention, restons bien sur ce point de vue d'Augustin, qui est un point de vue radicalement chrétien, de toute façon, ce qui compte, c'est le salut éternel. Jusqu'au jour où passera toute iniquité, là vous avez la perspective eschatologique, jusqu'au jour où passera toute iniquité, où seront effacées toute prééminence et tout pouvoir humain et où Dieu sera tout en tous. Hein? Ce qui compte beaucoup pour Augustin, et ça c'est un point de vue typiquement chrétien parce que ça suppose faire intervenir l'au-delà. C'est là qu'il faut avoir une attitude véritablement chrétienne. En fait, ce qui nous manque, tendanciellement, c'est-à-dire qu'au fond, nous sommes englués dans ce monde. Et Augustin est toujours en train de dépasser ce monde. C'est ça qui fait qu'il nous bouscule, qu'il est dérangeant. Alors, j'en viens ce qui devait être donc mon 3 sur la liberté dans le domaine religieux. Augustin a été confronté à un schisme. Un schisme terrible qui a divisé l'Église d'Afrique pendant plus d'un siècle. Ce qu'on appelle le donatisme, parce que le principal leader de ce schisme au IVe siècle, c'est quelqu'un qui s'appelle Donat. Donatus. Hein. Donné par Julien. Il y a beaucoup d'Africains qui s'appellent Donatus. On en a plein. Dans l'Afrique chrétienne, c'est un nom chrétien à la mode. Alors, ce qui. J'espère que ce n'est pas moi qui. Que je suis. Non, c'est moi. Plus foncé. Une conférence avec des intentions de prière, et à certaines heures, ça peut devenir un défi. Alors, je vais vite mettre en avion. Excusez-moi. On a tellement bien discuté, avant plus tard dans la conférence, que j'ai oublié de prendre cette petite précaution. Alors, le donatisme, qu'est-ce que c'est? C'est une exigence ciblée de pureté. C'est quelque chose qui est très humain. Hein, on n'a pas envie d'être contaminé. On ne veut pas s'asseoir à côté de quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne veut pas s'asseoir à côté de quelqu'un qui représente cette idéologie que l'on condamne. Vous voyez, on a une espèce de réflexe primitif de contagion, presque, de contamination. On voyez très très bien ce dont je veux parler. Les donatistes, ce sont les gens qui ne veulent pas avoir de rapport avec les chrétiens qui ont réellement ou sensément flanché pendant la persécution. Tout commence avec, en 312, un nouvel évêque de Carthage qui est consacré, et puis il y a des gens qui ne sont pas contents de voir cet évêque et qui disent, parmi les trois évêques qui l'ont consacré, il y a un gars qui a livré des livres saints aux païens pendant la persécution. Du coup, ce gars-là est impur, du coup, le nouvel évêque de Carthage est impur. Il nous faut un nouvel évêque, quelqu'un qui soit pur. Alors, en fait, l'évêque le consécrateur n'est pas quelqu'un qui a flanché dans la persécution, il est le calomnié. En plus, il n'y a pas de contamination. C'est ce qu'Augustin passe sa vie à expliquer. Le sacrement ne dépend pas des qualités morales de celui qui l'administre, mais de son accord avec l'Église et de toute façon de la grâce divine. Hein, j'ai des amis qui ont découvert à un moment que le prêtre qui les avait mariés était inculpé pour ceci, cela, acte pédophile et autres. Ça ne change rien au sacrement de mariage qu'ils ont reçu. Dans une logique donatiste, si, ce serait une catastrophe. Vous voyez, mais dans la logique augustinienne qui a été retenue par la tradition catholique, ce n'est pas un problème. Or, les donatistes posent un autre problème, mais c'est un sectarisme. Ce qui se manifeste, c'est qu'en plus, ils sont violents. Voire très violent. Je vais vous mettre des textes, comme je les ai traduits moi-même, je les ai tous les traits, puis après je me suis amusé. Et les violences inouïes exercées sur des évêques, des prêtres ou des diacres catholiques. Hein. Les donatistes sont des troupes d'armée et qui vous fracassent la tête à coups de gourdin en disant mange à Dieu. Non, mais c'est ça.
Il n'y a pas à faire un film.
Assez mouvementé, d'être enfoncé, on pouvait voir tous les passages à tabac d'évêques catholiques par des donatistes. Augustin lui-même a échappé de peu à l'attentat. Simplement, son guide s'est trompé de route. Et donc, les gens qui devaient passer à tabac Augustin et attendaient sur la route qu'il fallait prendre, et Augustin, lui, était paumé à cause d'un guide qui s'est. Non, c'est. Vous voyez, partout des belles anecdotes de la vie d'Augustin. Or, Augustin a à tout moment été amené à accepter des mesures impériales contre les donatistes. Pourquoi? Parce que c'était trop, il y avait trop de violence. Et en plus, il y avait la violence exercée sur tous les gens qui éventuellement seraient bien passés du côté catholique, parce que les arguments d'Augustin étaient intéressants, mais qui avaient peur que leurs camarades donatistes, plus durs qu'eux, ne les tabassent. S'il avait envie de redevenir catholique. C'est pourquoi Augustin a accepté des lois qui réprimaient le donatisme. Et dans le texte 6, je crois qu'il y a la plus belle justification de son attitude. Et je voudrais qu'on la comprenne, cette attitude. Regardez bien ce qu'il dit. Certes, personne ne doit être contraint malgré lui à la foi. Donc, pas de contrainte, pas de conversion forcée. De toute façon, on peut faire quelque chose contre eux parce qu'ils se disent chrétiens. Donc, il faut qu'ils soient logiques avec eux, dit Augustin. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va les faire croire. Mais la sévérité, ou plutôt la miséricorde de Dieu, châtie le manque de foi par la douleur des épreuves. Il vaut mieux que ça se passe un peu mal pour eux pour que ça les calme. Ça va pas plus loin. C'est selon sa libre volonté que chacun adopte les mœurs les meilleures. Vérité intéressante. On ne fait le bien que librement. Cela n'empêche pas la rigueur de la loi de punir les mœurs et les pions. Cette discipline qui réprime une vie déréglée vient en second lieu. Attention, en second lieu, pas tout de suite. Seulement une fois que quelqu'un a refusé d'apprendre à vivre bien. Si donc des lois ont été édictées contre vous, il s'adresse à un donatiste, Si donc les lois ont été dictées contre vous, ce n'est pas pour vous contraindre à faire le bien, mais pour vous empêcher de faire le mal. Et la nuance, c'est très important, ce n'est pas de la rhétorique. Car personne ne peut agir bien sans choix, sans amour. Deux choses qui relèvent de la libre volonté. Quand on craint les châtiments, on n'a pas encore la délectation d'une conscience en paix. Faire le bien est délectable. On ne fait pas le bien contre soi. On ne fait pas le bien parce qu'on est forcé. On fait le bien avec amour. Quand on craint le châtiment, on n'a pas encore la délectation d'une conscience en paix. Mais au moins, on enferme sa passion mauvaise dans l'enclos de son inquiétude. Et il vaut mieux que ceux qui ont envie de cogner leur voisin qui aurait bien l'idée de passer chez les catholiques, on les empêche. Comme ça, les autres vont passer chez les catholiques et eux, ils finiront peut-être par réfléchir. Parce que si leurs idées leur coûtent un peu, ils finiront par se demander s'ils ont vraiment raison de les avoir. Hein, ailleurs, Augustin le dit. Alors, faites très attention à cela. Ça s'accompagne chez Augustin de quantité d'interventions auprès des magistrats pour obtenir de la clémence. C'est-à-dire qu'il faut que vous fassiez très très attention. Quand Augustin accepte la répression, il l'accepte à condition que ce soit des châtiments modérés. C'est-à-dire qu'Augustin, ce qui est exceptionnel pour son époque, est opposé à la peine de mort, est opposé à la torture, et au fond, ce qu'il demande, c'est qu'on tape au portefeuille. Ce qu'il demande comme répression pour les donatistes, ce sont des amendes. Vous voyez ? Donc en fait, il demande qu'on attaque les biens matériels des gens parce que ça les fait réfléchir. Mais il ne veut pas qu'on les attaque dans leur corps. Donc il faut faire très attention, parce qu'il faisait quelques fois présenté comme un infâme acteur de la répression, celui qui trace le chemin à toute la tradition médiévale, etc. Alors qu'en fait, lui, ce qu'il veut, c'est des amendes pour que les gens réfléchissent. Et notamment pour que ceux qui sont les plus durs n'empêchent pas les autres. Surtout qu'il vous explique qu'après, les autres sont tout contents. Mais c'est bien mieux, on avait vraiment trop peur, maintenant on est beaucoup mieux. Augustin dit, une fois qu'ils sont revenus dans l'église catholique, ils sont tout contents, il faut offrir ça au maximum de gens. Toujours le souci de la multitude chez Augustin. Alors tout ça se fonde en réalité sur mon 4, qui est la force de la liberté intérieure, ce que vous avez avec les textes 7, 8 et 9. C'est-à-dire que si Augustin est prêt à supporter qu'on réprime les donatistes, je le redis d'une façon non sanglante, c'est parce que, de toute façon, tout se fera à l'intérieur. Il faut débloquer, au fond, la volonté des donatistes, puis après, ils comprendront. Et pour cela, si vous voulez, Augustin a l'idée d'une liberté qui est quelque chose de fondamental chez lui. Alors, le plus important de ces trois textes, c'est le numéro 7, c'est dans justement le traité qui s'intitule Le Libre Arbitre, qui parle assez peu de la liberté, en fait, qui parle beaucoup plus de l'origine du mal. Mais, alors faites attention, c'est normal qu'Augustin parle de la liberté, parce que c'est une évidence pour lui. C'est une évidence que la vie chrétienne se fait par amour et que l'amour est libre. Donc, si vous voulez, faites très attention, hein, la tradition catholique parle beaucoup moins souvent de liberté qu'elle y pense, parce que de toute façon c'est sous-entendu. Il faut faire très attention à cela. Alors, il y a quand même des affirmations comme celle du texte 7. Nous croyons que l'être humain a été créé par Dieu et établi dans la vie heureuse d'une manière si parfaite que c'est lui-même, de sa propre volonté, qui est tombé de là dans les misères de la vie mortelle. Il faut bien le lire, ce texte. Voyez, si l'être humain est devenu pécheur, c'est parce qu'il était parfaitement libre. La création était réussie. En d'autres termes, le Créateur fait une créature libre qui peut lui faire un pied de nez aussitôt créé. C'est ça, en fait, la liberté chrétienne. C'est une fois à Notre-Dame, après une conférence, enfin, j'ai fait la conférence, il y avait un débat après, et il y a un gars qui dit, puis il avait dit ça lors du débat de la conférence précédente, qui dit, oui, mais c'est normal le péché, parce que ce qui a été créé par Dieu ne peut pas être comme Dieu, ne peut pas être parfait, bon, nécessairement. Alors, je finis par intervenir la deuxième fois, mais quand même, si on dit ça, on fait de Dieu la source du mal. Et l'évêque qui présidait à Dior, il me faudrait un théologien. Je pensais qu'un évêque n'était pas capable de dire ça. Voilà, c'était un évêque auxiliaire de Paris du temps que j'étais normalien. J'avais des mauvais esprits. Vous voyez, parce que je demandais à l'évêque de faire un peu de théologie, et de rappeler. Non, parce que je vous assure, à l'époque, ça avait, ça, pour mes camarades et moi, ça avait du sens. Rappeler certaines choses, quelquefois, qu'il fallait tout simplement dire. Oui, l'être humain est tellement parfait qu'il est même libre de faire le contraire de ce que veut son créateur. C'est pas un automate. Donc, vous voyez, ça inverse certaines idées reçues. Dans la vraie religion, ouvrage cher à l'un d'entre vous, Jésus, ça c'est un passage merveilleux aussi, c'est un passage doux. Il ne fit rien par la force, Jésus, mais tout par la conviction et l'enseignement. La vieille servitude était révolue, le temps de la liberté avait commencé de briller. Qu'est-ce que c'est que l'époque chrétienne? Vous savez que les pères de l'Église donnent des périodes à l'histoire du salut. Ils ont une vision de l'histoire. Il faut avoir une vision de l'histoire. Il faut que nous ayons une vision de l'histoire. Il faut que chaque génération sache se situer dans l'histoire. Parce que ça aide. En plus, c'est antidépresseur. C'est très bon. Oui, parce que ça nous met dans un destin collectif. Vous voyez l'idée? On est dans une aventure, on est dans une génération, et pof, on est dans l'histoire du salut. Et là, la partie chrétienne de l'histoire, c'est tempus libertatis, le temps de la liberté. Magnifique, enfin, tous les curéphages, tous les antichrétiens avec qui vous discutez, sortez leur ça, mais non, Christianisme, c'est, dit ça comme ça, le temps de la liberté. Avec quelqu'un qui se laisse pas crucifier, tellement il laisse la possibilité de choisir. Cette fois, ce qui était à propos et salutaire, c'était d'apprendre à l'être humain combien il avait été créé libre. On revient à la création. Alors, c'est un texte magnifique, c'est un des plus beaux passages, une des meilleures religions. Me semble-t-il, mais vous en trouverez d'autres. Dans le même livre, n'importe qui s'en rend aisément, sous la domination de l'humain, il est à notre portée d'avoir des pensées libres. Vous voyez, l'idée que la conscience reste intelligente. Mais ces autres maîtres, nous les craignons dans notre pensée, qui est l'unique œil pour regarder, connaître la vérité. Qui sont ces autres maîtres? Ce sont les démons. Alors, les démons, eux, habitent dans l'âme. Et eux instillent d'autres pensées. Et du coup, eux sont ennemis de la liberté de penser. Eux sont vraiment dangereux. Et vous avez la suite qui est très évidente. Si donc nous nous montrons obéissants, selon notre appartenance civique, à tous les pouvoirs qui sont donnés aux humains pour diriger une république, en rendant à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, nous n'avons pas à craindre que l'on vienne nous demander de l'obéissance après notre mort. Les démons, si. Une chose est la servitude de l'âme, ce qui est à éviter bien sûr, une autre, la servitude du corps. Enfin, ce que j'appelle la libération chrétienne, ça va devenir ce machin tout petit portage sur mon temps de parole, mais je vais pas en terminer. Rassurez-vous, c'est ce que j'appelle la libération chrétienne. Alors, dans le livre 2 de la Cité de Dieu, chapitre 21, il y a un chapitre magnifique, il y a une apostrophe à Rome, aux Romains, pour leur dire « Vous êtes trop bien pour ne pas être chrétien. » Faites pas le coup. Vous avez des dieux nus, vous êtes si bien, vous, par toute votre histoire, devenez chrétien. C'est un truc qu'il faut devrait penser, d'ailleurs. Ne vous priez pas du christianisme. Voyez, vous me donnez l'idée. C'est quand même emmerdant d'être chrétien, ça c'est dur pour nous. Alors on vous propose aussi, mais vous n'êtes peut-être pas aussi courageux que nous. Vous voyez, il faut faire attention à ça. Là, c'est l'idée, mais c'est trop bien pour vous. Ne vous priez pas de ça. Alors, il s'adresse à Rome. Ne regrette pas les faux dieux, les dieux faux et trompeurs, rejette-les, méprise-les, et lance-toi vers la vraie liberté. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des esprits malins. Ils appréhendent ton éternelle félicité comme leur propre punition. Junon, c'est clair, jalouse les Troyens, dont tu descends selon la chair en pensant aux futures citadelles des Romains. Ces démons que tu persistes à prendre pour des dieux envient encore plus à tout le genre humain les demeures éternelles. Toi-même, tu étais en partie lucide sur de tels esprits quand tu les apaisais par des jeux et frappais d'infamie les êtres humains qui te confiaient ces jeux. Ça, c'est dit, les Romains déclassaient les acteurs. Et Augustin dit, ah, ben, vous aviez raison, puisqu'il servait à donner des spectacles à des démons. Veille à affirmer ta liberté face aux esprits immondes qui t'avaient imposé de sacraliser et de célébrer leur ignominie. Alors, une idée sous-entendue qu'on retrouve ailleurs dans la cité de Dieu, c'est les païens sont des victimes. Ils se sont fait avoir. Et il faut qu'ils se libèrent. Et enfin, je vous ai mis un texte qui nous fait un programme d'apostolat, mais cette fois c'est dans le livre 5. C'est un texte beaucoup moins connu que le précédent. Ce sont là deux choses qui ont poussé les Romains à accomplir des exploits. La liberté et le désir des membres humains. Alors si les Romains ont fait ça, et ont accompli les exploits, à plus forte raison, les chrétiens doivent le faire. Alors, pour la vraie liberté, qui nous libère de l'iniquité, de la mort et de la tyrannie du diable, et non par désir de louanges humaines, mais pour l'amour de libérer les humains, non du roi Tarquin, mais des démons et du prince des démons, qu'y a-t-il d'extraordinaire à ce que, par contraste avec ceux qui tuaient leur fils, c'est une allusion à l'histoire romaine, nous comptions parmi nos fils les pauvres du Christ. Et je termine là-dessus, je ne veux pas viser votre conscience, mais avouez que dire aux chrétiens, on va travailler pour l'amour de libérer les humains. Weber est mort en 1920 et Trunch en 1923. Ils étaient amis, ils ont été tous les deux professeurs à Heidelberg. Bon, c'est un très grand bonhomme, Trunch, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'admire beaucoup Trunch parce que notamment, il a écrit une histoire des enseignements sociaux des églises chrétiennes depuis l'Antiquité jusqu'à la Réforme, qui n'est pas traduite en français, qui est traduite en italien, qui est traduite en anglais, qui n'est pas traduite en français. Et il y a cet essai sur Augustin. Cet essai sur Augustin, je trouve que c'est une très très bonne chose que vous l'ayez lu, en plus en allemand. Moi je m'aide d'une traduction italienne, à dire la vérité,
Il y a une bonne traduction italienne des années 1970. Bravo, c'est une très chose. Non, vraiment, je suis ravi que c'est la première fois comme ça que quelqu'un cite Crunch, l'essai de Crunch sur Augustin, 1915. Crunch a un mérite inouï, c'est qu'il a compris que Augustin est un homme de l'Antiquité. Ça, c'est merveilleux. Il a même une très très curieuse expression, il dit qu'il est Volkstribun, il est tribun de la plaine de l'Antiquité, il est la porte-parole de l'Antiquité. Ça c'est très important, parce qu'il crève de ce qu'Augustin est toujours vu à travers une optique médiévale. Mais que les médiévistes sont terribles avec Augustin. Ils n'ont pas leur pareil pour les sous-estimer et pour ne pas comprendre, parce qu'ils le voient à travers leur époque, à eux, sans se rendre compte qu'on ne peut pas interpréter le passé par ce qui a suivi. Le passé, il faut l'interpréter parce qu'il y a encore plus passé et qu'il y a plus d'influence. Évidemment, l'histoire ne peut pas la faire à recul. Alors, maintenant, je pense que vous pouvez affirmer votre regard, mais ça viendra. Parce que ce que je vous dis là, ça n'est pas mis tout de suite, loin de là. J'ai mis énormément de temps à comprendre un certain nombre de textes. Énormément de temps. Vous avez beaucoup d'avance sur moi parce que déjà vous connaissez Crunch et vous posez des questions que j'étais incapable de poser quand j'étais à votre place. Donc franchement, c'est remarquable. Je dirais, faites attention à la vision hiérarchique qu'a Augustin. Dans l'Antiquité, on a beaucoup de tendance à hiérarchiser. Hiérarchiser ne veut pas dire que l'on méprise les échelons qui ne sont pas les plus hauts de la hiérarchie. Ça veut dire qu'on a une vision complète, où chaque chose est à sa place. Et le mérite de chaque chose, c'est d'être à sa place, quelle que soit sa place. Donc il faut faire attention à ça. Je vous rappelle à l'IPC, qui n'est pourtant pas un lieu hyper progressiste, quand je disais quelque chose sur la hiérarchie du corps et de l'âme, on disait « Ah, mais vous dévalorisez le corps !» Non, c'est tout, le corps est à sa place et l'âme à la sienne. Il y a complémentarité, mais il n'y a pas dévalorisation sous prétexte qu'il y a une différence. Et une différence de qualité, bien sûr. Alors, ça, il faut en tenir compte. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y a cette admiration d'Augustin pour la République romaine, cette admiration qu'il a pour la paix, et que la paix, ça existe, et que, bien sûr, c'est inférieur à la paix céleste, mais, à son rang, ça a une valeur. Vous voyez, il faut comprendre que les choses ont une valeur à leur rang. Alors, pour parler de la politique, si vous voulez, je vais faire lundi, excusez-moi, je suis fatigué, lapsus, et en samedi matin à Lyon, je vais faire un topo sur l'autonomie du politique chez Augustin. Et ce que je voudrais leur dire, c'est qu'Augustin est capable d'admirer la réalité politique. Par exemple, celle de la République romaine, ou celle de toute république, c'est-à-dire de toute communauté humaine organisée, politiquement et socialement organisée, qui arrive à vivre en paix. C'est-à-dire que, si vous voulez, il est même capable d'admettre que les Romains avait une vertu politique qui n'était pas une vertu chrétienne, il y a d'autres façons, mais qui justement leur permettait une certaine réussite. Et que du coup, les chrétiens feraient bien d'en faire autant. Hein? Si les Romains voulaient se libérer, eh bien les chrétiens, eux, doivent à plus forte raison se libérer. Vous avez des passages dans la Cité de Dieu, livre 5, où Augustin dit les aristocrates de la République était capable de se priver, était capable de vivre frugalement. Alors, il n'est pas dur pour les chrétiens que l'abandon des biens, c'est trop difficile. Vous voyez, il y a quand même un regard très dur, notamment sur la paix, avec cette idée que tout le monde a besoin de paix, y compris la bande de malfaiteurs. Alors, bien sûr, c'est qu'une bande de malfaiteurs. Mais c'est très vrai ce que dit Augustin. C'est vérifié, par exemple, par tous ceux qui connaissent un peu la sociologie des groupes mafieux de la tradition sicilienne. Qu'est-ce qu'il faut dans un groupe mafieux? C'est qu'on s'entende bien. Parce que sinon on passe son temps à se flinguer. Ce qui s'appelle una guerra di mafia. Alors ça, c'est terrible, parce que les gens se flinguent les uns après les autres. voyez. Bien sûr, c'est des mafieux, c'est des criminels. Mais il y a un avantage pour eux, et même pour la société, c'est quand ils s'entendent bien. Parce que s'ils s'entendent bien, ils commettent des délits, oui. Mais moins que si c'est une guerre entre différentes bandes, où ils vont s'exterminer avec tous les dégâts collatéraux. Vous voyez, Augustin est capable de voir même la paix dans son expression la plus élémentaire, la plus prosaïque, à peine valorisable. Alors, ça, je pense que c'est en rapport, c'est une proposition que vous faites, avec ce qui est dit dans la première épître à Timothée, c'est au chapitre 2, sur le fait qu'il faut prier pour les gouvernants. Il faut prier pour les gouvernants, dit l'auteur, si c'est Paul, si c'est un disciple, j'en sais rien. Pour la première à Timothée, je ne sais pas. La deuxième, je pense qu'elle est de Paul lui-même. La première, je ne sais pas. Mais je peux me tromper sur les deux. Afin que nous vivions en paix, que nous menions une vie tranquille et chaste. Une tranquillité et castitate. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Je pense qu'Augustin a retenu cette leçon-là de la première à Timothée, chapitre 2. C'est-à-dire que la paix civile, la paix sociale, ça permet d'évangéliser. Si les gens sont en train de s'entretuer, une guerre civile comme l'a connue la République romaine, c'est difficile d'évangéliser. Il y a cette idée, le salut, pour passer, le message de salut a besoin d'avoir une société pacifiée. Alors, elle peut être injuste, elle peut être idolâtre, elle peut avoir des tas de défauts, mais au moins les gens sont prêts. Vous voyez, votre réflexion va continuer, je ne prétends pas avoir raison, je ne prétends pas vous avoir dit tout ce qu'il fallait, hein. Mais continuez à réfléchir, à y penser qu'un auteur, ça doit que vous soyez. Faites-le tranquillement, et puis ce sera intéressant. Je précise, il y a mon adresse sur les exemplaires. Si jamais vous avez une question, vous pouvez aussi prendre contact. C'est un truc tout bête. Merci.
Bonsoir monsieur, merci pour votre conférence. Moi je m'interroge sur la place de la gloire et de louange de Saint-Augustin dans les textes que vous nous avez donnés. C'est un sujet qui m'intéresse un peu en partant de Cicéron plutôt. On voit que ce sont là deux choses qui ont poussé les Romains à accomplir des exploits, la liberté et le désir des branches humaines. Il reprend la question de la vraie liberté, mais on voit aucune vraie branche, après que vous n'avez pas mis l'extrait. Donc, enfin, on a l'impression qu'il évacue cette espèce, il prend pas ça comme un bien, il le met un peu de côté. En même temps, on a la question de liberté qui n'était plus glorieuse sur la fin de la pluie. Enfin, qu'est-ce que fait Augustin de cette question-là, de la louange humaine, qui, avec l'humilité, pose un peu une question, avec la branche de Dieu, qu'est-ce qu'il en fait?
C'est une bonne question, vous touchez bien en fait, hein, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas mis tous les textes qui permettraient de voir clair. Et que ça fait juste parce que j'étais limité. Vous voyez, d'ailleurs, même chose. Je pensais vous mettre plus de textes et le temps, à un moment, m'a un peu. Je me suis un peu inquiété du temps parolé, de ne pas réussir à maîtriser. C'est une question qui est très très importante chez Augustin, effectivement. Alors, vous avez la réponse à la limite. Je pourrais m'arrêter là, après vous avoir donné ce conseil, on pourra en parler un peu plus quand même. Vous avez la réponse en lisant le début du livre 1 de la Cité de Dieu, où vous voyez que la très glorieuse Cité de Dieu, elle a Dieu comme témoin de sa conscience. Alors que l'autre cité, et là c'est Rome qui représente la cité terrestre de manière emblématique, cherche la louange des hommes. Or, la louange des hommes, c'est relatif. C'est terrestre. Et que ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Donc vous avez deux choses. Vous avez la recherche de l'approbation des hommes et vous avez la recherche de l'approbation divine, qui sont deux choses différentes. Ce qui ne veut pas dire que la recherche de l'approbation des hommes soit quelque chose d'entièrement mauvais. En effet, c'est une caractéristique romaine que d'aimer la louange. Alors, Augustin n'invente pas, il le tire de Salluste. Parce que Salluste explique que les premiers Romains aimait peu l'argent, mais beaucoup la gloire. Et Augustin explique au livre 5 de la Cité de Dieu que celui qui aime la gloire ne peut pas être entièrement mauvais, parce que les êtres humains savent à peu près distinguer le bien et le mal. Et donc celui qui veut les louanges des hommes ne peut pas être un franc-salaud, parce que sinon il n'aurait pas les louanges des hommes. Il réussirait juste à leur faire peur. Et donc, en ce sens-là, les Romains sont meilleurs que s'ils avaient simplement voulu dominer. Les Romains veulent être approuvés. Et Augustin a analysé le fait que les Romains revendiquent, hein, Virgile le dit, de ne pas écraser les peuples vaincus, mais de savoir faire alliance avec eux. L'impérialisme romain, pour Augustin, a un minimum d'humanité. Et ça, ça compte, s'il vous plaît. Je pense, en plus, il y a quelque chose de très très vrai. Il y a eu un président de la République, il y a quelques années, soutenant une loi contre laquelle j'ai manifesté X fois avec énormément de gens qui ont toujours été méprisés à ce moment-là, qui le sont toujours, mais on en parle moins. Il y a un président de la République à qui quelqu'un, d'après qui est revenu aux oreilles, j'espère que c'est vrai, a dit à ce président, « Monsieur le Président, est-ce que vous pensez à l'image que vous laisserez dans l'histoire ?» Et ce président aurait répondu, « Je me fiche bien de l'image que je laisserai dans l'histoire. » Et je pense que ça, c'est précisément très mauvais. Parce que c'est refuser la louange humaine. Alors, la louange humaine, ça oblige à ne pas faire complètement n'importe quoi. Vous voyez, on a là une règle, je trouve que c'est très intéressant psychologiquement que Augustin dise, celui qui veut dominer, qui veut simplement le pouvoir, il peut tout faire. Et il donne quelques exemples, dont Néron. Bon, c'est peut-être cliché sur Néron, mais il le dit. Alors que l'amour de la gloire recherche l'approbation. Vous voyez, mon ami, mon collègue et ami Dominique Barthélémy, médiéviste éminent, a beaucoup étudié la chevalerie. Et il a eu cette idée très très belle, le chevalier, que ce soit un guerrier chrétien ou un guerrier musulman, car lors des croisades, il y a affrontement entre des guerriers qui ont des valeurs communes, mais des religions différentes, le chevalier, le héros, c'est celui qui veut être approuvé, qui veut séduire, qui veut obtenir des louanges pour ses exploits, pas seulement gagner. Mais séduire, avoir une sorte d'élégance. Et donc, si vous voulez, ça, c'est une valeur relative, plutôt qu'un péché.
C'est pour ça qu'Augustin est plus tendre avec César, qui a une certaine élégance dans son...
Oui, notamment parce qu'il y a la clé méridienne. En plus, dans la tradition romaine, César, c'est l'homme qui sait pardonner. Oui. Augustin le dit ailleurs, notamment dans la lettre 138. Et ça, c'est très important. Ça, c'est un problème. César est absolument exceptionnel. Lisez la biographie de César par Christian Mager, qui a été traduite en français en 1990 ou 91. C'est une vision très originale de César. César n'entre dans aucune catégorie. Il est complètement à part. C'est un vrai génie. Et je comprends, pour ma part, j'ai peut-être tort, mais Augustin a beaucoup plus d'admiration pour César que pour Auguste. Mais regardez le livre 5 de la Cité de Dieu. Augustin se demande en quoi les Romains étaient-ils meilleurs que notre peuple. Justement à cause de l'amour de la gloire. Parce que l'amour de la gloire, ça nourrit l'orgueil, mais ça ne fait pas commettre le mal. En tout cas, pas jusqu'au bout.
Merci beaucoup.
Bonsoir monsieur. J'ai une question sur les vertus naturelles qui sont dont parle à Saint-Augustin. Dans quelle mesure est-ce que celles-ci sont suffisantes? Parce qu'après, il parle du péché, justement, et il va parler de combien de temps un chrétien l'exercice des vertus naturelles pour lui permettre d'accéder à la paix. Mais dans quelle mesure, pour lui, est-ce que, pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, ces vertus naturelles leur permettent d'accéder à une paix civile?
Alors, à une paix civile, oui, de toute façon. Parce que, précisément, ce que vous avez vertus naturelles, c'est en fait... des vertus qui sont inscrites dans la loi naturelle, en fait. C'est-à-dire qui sont, qui découlent de la loi naturelle inscrite, ce que dit Augustin littéralement, dans le cœur de l'homme. Ça vous renvoie, vous pouvez, ça peut vous renvoyer aux deux premiers chapitres de l'Épître aux Romains, qui sont quelque chose d'extrêmement important, hein, comme conception de l'humanité. C'est le même problème. Les êtres humains connaissaient Dieu naturellement. Ils se sont inventés des idoles. Donc ils connaissent Dieu naturellement, mais le péché obscurcit cette conscience. Alors, du coup, sur le plan civique, ça peut donner d'assez bons résultats, mais ça ne dure pas, à cause de la blessure du péché. Redonner l'image de blessure. Le péché originel n'a pas aboli la nature humaine, il l'a blessée. Du coup, ça blesse la connaissance du bien et du mal est un peu brouillée, elle n'est pas complètement abolie, mais elle est brouillée, et surtout, il manque, l'être humain pécheur manque de force pour accomplir le bien. Et notamment, il n'a pas en lui de quoi être sauvé. Et c'est pour ça, quand vous parlez de vertu civique, ça sert pour la vie civique, ça n'est pas le salut. Mais ça a un certain intérêt déjà dans la vie civique. C'est pourquoi, toujours livre 5 de la Cité de Dieu, ça va être le chapitre 25, Augustin dit que le mieux, c'est d'avoir des gouvernants chrétiens, remplis de vertus chrétiennes, et il ajoute, à condition qu'ils connaissent la science du gouvernement des peuples. Ce qui est très très intéressant, parce que ça veut dire, ce qui est politique, c'est un peu technique, et ça doit s'apprendre spécialement. Vous voyez, j'ai un ami, enfin, qui est mon ancien doctorant, mais qui est devenu un ami, un jeune collègue libanais. Il connaît du coup très très bien l'islam. Un jour, il m'a expliqué ce qu'on appelle les merveilles du Coran. Les merveilles du Coran, c'est un argument apologétique musulman qui consiste à dire que tout est dans le Coran. La conquête de l'espace, elle était déjà produite dans le Coran, etc. Donc tout est dans le Coran. Et bien, Augustin et toute la tradition chrétienne pensent que tout n'est pas dans la Bible. La preuve, c'est que le christianisme est très largement responsable du développement des sciences en Occident. Tout le monde sait que le XVIIe siècle, qui est un siècle très fortement catholique, est un grand siècle de développement scientifique. Alors, on bassine tout le temps avec les lumières, mais il ne faut pas exagérer. Hein. On n'était pas idiots avant le XVIIIe siècle. Hein. Et, si vous voulez, il y a une autonomie du temporel, et par exemple, une autonomie de la science politique. Vous voyez ? Et ça c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'en tant que chrétien, il faut aussi bosser. Il ne suffit pas d'avoir les bonnes intentions ou d'avoir lu l'Évangile. Bien sûr, l'essentiel, c'est d'avoir lu l'Évangile. Mais peut-être que pour faire de l'évangélisation, il faut peut-être aussi faire un peu de sociologie religieuse ou étudier un peu les pays dans lesquels... Et puis, enfin, un jour, on m'a appris que le premier boulot d'un missionnaire, c'est d'apprendre la langue du pays dans lequel il arrive. Et ça ne se fait pas tout seul. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a des choses qui sont utiles, elles ne servent pas forcément directement pour le salut, mais elles sont utiles et il faut les respecter. Vous avez un exemple de ça qui est très très intéressant, c'est dans la préface du De Doctrina Christiana. Il y a le dialogue entre Moïse et son beau-père Jéthro. Alors Jéthro n'est pas un Israélite. Et Jéthro sait que Moïse va aller passer sa journée à rendre la justice. Il va arbitrer tous les conflits entre les Israélites. Et Jéthro lui dit, mais tu es fou, tu vas être épuisé, tu ne peux pas faire ça tout seul. Non, tu vas t'organiser, et tu vas désigner des juges qui vont juger à ta place. Et quand ils n'arrivent pas, ils appelleront, ils font appel à toi. Et Augustin dit, Moïse qui parlait avec l'Éternel, il a été capable de prendre un conseil de Jéthro. C'est-à-dire que, en matière d'organisation politique, quelqu'un qui n'avait pas eu de révélation divine, il pouvait avoir un bon conseil à donner. Et ça vous renvoie à autre chose qui est également dans la préface du De Doctrina Christiana, c'est que tout ne vient pas directement de Dieu, d'Augustin, Ça passe aussi par les hommes, car sinon, de la part de Dieu, ce ne serait pas une manière de valoriser la dignité humaine. L'idée de passer par les hommes. Vous avez l'exemple de l'eunuque de la reine d'Éthiopie, hein, qui lit Isaïe dans son char. Ben, il y a Philippe qui vient l'expliquer. Il n'y a pas une inspiration divine qui explique comment comprendre Isaïe. Il y a un homme qui vient. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Donc il y a des intermédiaires. Et par là même, les hommes sont unis. Vous voyez, il y a tout ce qui est relatif, il y a tous les degrés. Et ça, je dirais, pardon, je généralise, ça fait partie de la sagesse chrétienne. Tout ne tombe pas d'en haut comme ça, brusquement, même si tout vient d'en haut. La vérité que possède Jéthro, la sagesse que possède Jéthro, en dernière instance, elle est d'origine divine, bien sûr, puisque tout vient du Créateur. Simplement, le Créateur a même la discrétion de ne pas toujours dire les choses directement et de ne pas tout mettre dans le grand livre qui compte avant tout. Ce qui est quand même très intéressant. Il y a une acceptation par le Créateur de toutes les médiations.